5 millions de rendez-vous supplémentaires pour permettre aux Français de se vacciner, de freiner la progression de l'épidémie. Avec le variant Delta, le nombre de cas de contamination explose et les services hospitaliers pourraient se retrouver saturés dès la fin de l'été. Pas un mot du gouvernement sur ce qui est désormais un scandale d'État, l'affaire Pegasus. On sait qu'un des téléphones d'Emmanuel Macron a été infiltré par le logiciel espion israélien. Alors pourquoi ce silence radio ? L'analyse de Louis de Raguenel dans ce journal. Tout un village recueilli pour saluer la mémoire d'une des leurs. Les habitants de Plomb de la Tour dans le Var ont rendu hommage à Doriane, tuée dimanche d'une balle dans la tête par un homme avec qui elle avait eu une relation. La cérémonie d'ouverture aura lieu dans moins de 2 jours, mais les épreuves, elles, ont déjà commencé. Tokyo se pare doucement de ses couleurs olympiques. La tendance météo, encore le grand beau demain, avant une dégradation, nous dira Marlène Duret en fin de journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le pic épidémique de la 4e vague qui traverse actuellement la France est attendu pour la fin de l'été. C'est ce qu'a annoncé Olivier Véran à l'Assemblée nationale lors des débats sur le projet de loi sur le pass sanitaire. Le ministre de la Santé qui précise que 21 000 nouveaux cas de contamination ont été détectés ces dernières 24 heures. Une situation qui inquiète le gouvernement. Jean Castex l'a d'ailleurs clairement exprimé à la mi-journée lors du journal de 13 heures sur TF1. Le Premier ministre qui l'a redit, l'objectif est encore d'accélérer sur la vaccination.
96% de tous ces cas qu'on constate de plus en plus nombreux
n'étaient pas vaccinés.
La clé, on la connaît, c'est pas tout à fait nouveau, mais la contagiosité de ce variant Delta nous oblige encore plus, il faut vacciner. Donc, je vous dis, d'ici, dans les 15 jours qui viennent, on va ouvrir 5 millions de rendez-vous dans cette période. C'est pas seulement ouvrir pour vous dire vous aurez un rendez-vous le 20 août.
Mais avec quel objectif ? On a bien compris, vous mettez l'accent sur la vaccination, mais l'objectif chiffré, c'est combien ?
J'ai dit 40 millions de primo-vaccinés à la fin de ce mois, on y est bientôt.
On y est.
Oui, sauf que c'était 40 millions fin août.
Oui.
Donc on a, et 50 millions fin août.
Jean Castex, au journal de 13h sur TF1, et cette intervention a également été l'occasion pour le Premier ministre de détailler les mesures du pass sanitaire qui sont entrées en vigueur aujourd'hui, sans en annoncer de nouvelles, Virginie Riva.
Non, effectivement, Jean Castex ne propose à ce stade aucune mesure de freinage national, même si un nouveau confinement, a-t-il dit, ne peut à ce jour être définitivement exclu. Mais c'est la confirmation des grands axes de la stratégie annoncée par Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, à savoir le pass sanitaire et l'accélération de la vaccination avec un nouvel objectif de primo-vaccinés de 50 millions fin août. Face à la flambée de l'épidémie, notamment dans toutes les zones touristiques, il renvoie au préfet la décision de prendre des mesures de freinage locales, comme ce qui a été fait par exemple en Haute-Corse, dans les Pyrénées-Orientales. Il y en a essentiellement deux, la fermeture des bars et des restaurants à 23h, ou bien l'obligation du port du masque en extérieur. Le Premier ministre a exclu à ce stade de revenir à un couvre-feu. Avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire aujourd'hui dans les établissements culturels et les centres sportifs, puis début août dans les bars, restaurants et centres commerciaux, Jean Castex laisse une semaine de pédagogie pour les professionnels en charge de la vérification du pass sanitaire. Avant d'éventuelles sanctions, l'autre grande précision annoncée par le Premier ministre, c'est qu'ils ne devront pas vérifier l'identité des clients sur le pass sanitaire. Ça sera du ressort des forces de l'ordre.
Virginie Riva, dès le début du mois d'août, le pass sanitaire sera également obligatoire donc dans les bars et restaurants. Les restaurateurs devront s'assurer que leurs clients possèdent bien le leur. En revanche, ils n'effectueront pas de contrôle d'identité. Un assouplissement salué par Didier Chesnais, le président du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration.
Nous sommes soulagés, bien évidemment. Bien entendu, nous ferons les contrôles du pass sanitaire, mais pour autant, nous ne serons pas tenus d'assumer un rôle de police, comme le voulait au départ le projet de loi. Nous ne sommes pas en mesure, encore une fois, d'exiger et que faire devant un client récalcitrant qui ne veut pas vous présenter sa carte d'identité. Donc, c'est très important. Et alors maintenant, il nous reste à discuter la situation des terrasses. Nous demandons à ce qu'il n'y ait pas de contrôle du pass sanitaire sur les terrasses, dans la mesure où, d'abord, un, c'est en extérieur, et deux, c'est totalement irréaliste de penser qu'on va pouvoir, au fur et à mesure, assurer ces contrôles, alors même que les clients arrivent en terrasse, s'installent sur les terrasses. C'est extrêmement difficile de contrôler tout ça.
Didier Chesnais, président du GNI, avec Clément Le Saffre pour Europe 1. Le pass sanitaire est donc entré en vigueur aujourd'hui. Il est obligatoire dans les salles de sport, les cinémas ou bien encore les musées. Et dans ces lieux d'ailleurs, le port du masque n'est plus obligatoire si vous êtes vacciné. Un sentiment de retour à la vie d'avant, comme a pu le constater Maximilien Carlier au Louvre-Lens.
Le pass sanitaire, s'il vous plaît. Prenez vos temps, c'est la mise en route.
À l'entrée du musée, Jérôme, agent de sécurité, smartphone en main, avec l'application Tous Anti-Covid Vérif ouverte. Il demande également une pièce d'identité à chaque visiteur.
Donc là, terminé, c'est bon. Voilà. Et comme vous êtes vacciné, madame, vous pouvez retirer le masque maintenant.
Ah, super. Voilà. Partout ?
Partout, partout,
oh,
madame.
Oh, génial, ça fait beaucoup de bien. Surtout avec la chaleur qu'il fait, là, vous voyez, ça évite de la transpiration.
Odile glisse donc son masque dans sa poche, comme environ un quart des visiteurs ici. On voit d'ailleurs pas mal de sourires devant les œuvres d'art.
Ça fait plaisir. On peut vraiment, de nouveau, avoir une visite culturelle normale, sans être gêné au niveau respiration, au niveau... On peut vraiment pleinement vivre la visite.
C'est plus agréable, c'est plus confortable, c'est une libération, c'est, je dirais, presque un peu le retour au monde d'avant.
Bon, le monde d'avant, pas pour tout le monde. Une grande majorité a encore du mal à faire tomber le masque. Question d'habitude. Et puis, il est encore trop tôt pour l'enlever, selon certains, étant donné la hausse des contaminations en France. Lens, Maximilien Carlier, Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Tussaud. Et Jean Castex interviewé à la mi-journée dans le journal de 13h sur TF1. Le Premier ministre qui a été interrogé sur l'affaire Pegasus. Il a toutefois éludé le dossier. Jean Castex qui est jugé irresponsable de commenter les révélations du Monde concernant la surveillance par le Maroc d'un des téléphones d'Emmanuel Macron et de ceux de 14 ministres en 2019 via le logiciel espion israélien. Louis de Raguenel, pourquoi cette volonté du gouvernement de ne rien dire à ce sujet ?
Eh bien, en fait, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, plusieurs enquêtes internes sont menées en ce moment même par les services de l'État, par les experts informatiques de l'Élysée, évidemment, mais aussi par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, sans oublier la DGSI, la Direction générale de la Sécurité intérieure, le contre-espionnage. Et vous comprenez donc qu'il est impossible d'évoquer ce travail ultra sensible relevant de la sûreté de l'État. Il faut aussi bien comprendre que ça prend beaucoup de temps, car les limiers des services français veulent absolument tout savoir, tout comprendre et surtout s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelle infection invisible à premier abord sur les téléphones des plus hautes personnalités de l'État. Autre enjeu, identifier si des secrets d'État n'ont pas été violés. Encore une fois, impossible pour le gouvernement de s'exprimer tant que les investigations ne sont pas terminées. Enfin, si l'exécutif est aussi silencieux, eh bien c'est également pour des raisons diplomatiques. Si le rôle du Maroc dans cette opération d'espionnage était bien prouvé, il est nécessaire pour la France de savoir si d'autres pays ont pu bénéficier de cette tentative d'infiltration. Et donc, pour ne froisser personne inutilement, il est impossible une fois encore pour le gouvernement de s'exprimer tant que rien n'est certain à 100%.
Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1. A beaucoup d'émotions ce soir à Plan de la Tour dans le Var. Les habitants du village se sont rassemblés devant la mairie pour saluer la mémoire de Doriane. La jeune femme de 32 ans a été tuée dimanche d'une balle dans la tête par un homme avec qui elle avait eu une brève relation. L'homme avait ensuite été traqué durant 2 jours par les gendarmes dans les Alpes-Maritimes avant que son corps ne soit retrouvé hier à Gréolières. Un drame qui a bouleversé les habitants du village qui ont tenu à soutenir la famille de Doriane dans la douleur. Laurent Djouberdia est le maire du Plan de la Tour.
Il n'y a pas de mots pour expliquer des moments comme ça. Lorsqu'on est dans un petit village, c'est terrible. Ce qui est arrivé là, c'est... voilà. Donc, vis-à-vis de la famille qui, à leur demande, nous ont vraiment demandé voilà, de faire ce petit moment de recueillement pour se retrouver entre eux, tranquillement, et de pas... Voilà. De ne pas en dire plus, de ne pas en faire plus. Maintenant, ils ont besoin de notre soutien, de tout le village, et c'est ce qu'on va faire. Vous n'avez qu'à voir. Vous n'avez qu'à regarder. La place du village, elle était pleine. Ah, c'est tout le village qui est bouleversé, et c'est tout le village qui va les soutenir, et on va tous être à fond derrière eux.
Le maire du Plan de la Tour au micro européen de Frédéric Michel. Ce drame dans le Finistère. Deux fillettes de 4 et 6 ans ont été retrouvées mortes à leur domicile de Relecq-Kerion. Leur mère a été hospitalisée. Le père, qui avait annoncé leur rupture à sa femme, était en déplacement professionnel. Les circonstances des décès ne sont pour le moment pas connues. Gros plan à présent sur cette situation catastrophique en Chine. Il est tombé dans le centre du pays l'équivalent d'un an de pluie en seulement 3 jours, ce qui a provoqué de violentes inondations sur la ville de Zhengzhou, qui compte 10 millions d'habitants. Au moins 25 personnes sont mortes. La plupart ont été noyées par les torrents de boue qui ont englouti le métro de la ville. Un barrage menace également de céder. Les autorités ont ordonné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes. En Chine, le correspondant d'Europe 1, Sébastien Belzic.
Toute la journée, des centaines de camions militaires ont fait la navette pour évacuer plus de 200 000 personnes. 3 000 soldats ont été déployés sur zone et d'autres sont en train d'arriver. Une véritable course contre la montre alors que les eaux ne cessent de monter, comme l'explique ce militaire.
Avec mon détachement, nous avons évacué plus de 500 personnes déjà. On a commencé à réparer les digues et les réservoirs qui étaient détruits, mais d'après la météo, il va continuer de pleuvoir comme ça pendant au moins 2 jours.
Des torrents d'eau et de boue se sont abattus sur la ville de Zhengzhou, 12 millions d'habitants, l'équivalent de 6 mois de précipitations en à peine une heure. C'est du jamais vu en Chine. Tous les regards se tournent maintenant vers le barrage de Yiretan, sur le fleuve jaune. Une brèche de 20 mètres a été détectée et le barrage peut céder à tout instant. Dans le métro hier, des scènes de panique. Des milliers de voyageurs ont été pris au piège dans des rames inondées en quelques minutes. Ils se sont retrouvés bloqués avec de l'eau jusqu'aux épaules. Ils ont pu être évacués au bout de 4 longues heures d'attente. Mais le cauchemar continue alors que la pluie continue de tomber cette nuit sur la province du Renan. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
L'Allemagne également a connu des inondations meurtrières la semaine dernière avec près de 170 victimes. Des inondations qui coûteront jusqu'à 5 milliards d'euros aux assureurs. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la Fédération allemande du secteur. On prend à présent la direction du Japon. Dans 2 jours, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo avec 33 disciplines cette année, dont 6 nouvelles comme le karaté, le surf ou encore l'escalade. Et avant d'allumer la flamme olympique, les épreuves, elles, ont déjà commencé. Les premiers matchs de football féminin ont lieu aujourd'hui. Et c'est le softball, une version féminine du baseball, qui a ouvert le bal ce matin, Simon Rubin.
Ouais, c'est le début, avant le début, effectivement, avec le softball, sport très pratiqué au Japon. Un début de compétition symbolique dans la ville de Fukushima, dévastée par un accident nucléaire il y a 10 ans. Premier match remporté par les Japonaises dans un stade vide. Stade avec un peu de public pour le foot. Et une première surprise, les Américaines, championnes du monde, balayées par la Suède. Et puis le Brésil qui a gagné son match également, avec dans son équipe l'une des doyennes de la compétition, la joueuse Formiga, qui dispute ses 7e Jeux Olympiques. Et puis, il y a le Covid qui continue d'être découvert parmi les délégations. Un pongiste de l'équipe tchèque a été testé positif. C'est le 3e cas au sein de la délégation de République tchèque. On a aussi appris 2 forfaits. La skateboardeuse néerlandaise Candy Jacobs et la championne chilienne de taekwondo Fernanda Aguirre, forfait à cause du Covid.
Simon Rubin, pour suivre les épreuves et remise des médailles, n'oubliez pas votre rendez-vous quotidien sur Europe 1 dès samedi de 13h à 14h, le Club Tokyo du service des sports d'Europe 1. Et puisqu'on parle Jeux Olympiques, notez que la ville de Brisbane en Australie accueillera les Jeux de 2032. Seule en lice, elle a été désignée par les membres du CIO. Il nous reste à voir le temps de demain et ce sera la dernière journée de beau temps, Marlène Duret.
Et oui Sophie, le soleil reste avec nous encore demain et ensuite, changement de décor. Alors en attendant, demain matin, les nuages envahiront les départements au sud de la Garonne. Quelques-uns devraient d'ailleurs résister l'après-midi en bord de mer entre les Landes et le Pays Basque, un petit peu comme aujourd'hui. Partout ailleurs, le bleu du ciel dominera largement malgré quelques passages nuageux sur le nord du pays, entre la frontière luxembourgeoise, les Ardennes et l'est de la Picardie, rien de bien méchant. Et puis en montagne, les averses seront rares et elles se limiteront à l'est de la chaîne pyrénéenne. Enfin, jeudi soir, le ciel commencera à changer de couleur sur la façade atlantique, annonçant donc une dégradation pour vendredi et samedi. Les températures maximales devraient osciller entre 27 et 33 degrés au nord de la Loire, à l'est du pays et en Corse, avec souvent plus de 30 degrés d'ailleurs en Bretagne. Les régions méridionales afficheront 32 à 36 degrés avec des pointes à 37-38 dans le midi toulousain.
Merci Marlène Duret. On jette à présent On jette à présent un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. Pass sanitaire, les Français en liberté conditionnelle, titre l'Opinion. Vacciner, quoi qu'il en coûte, jusqu'à quel point? Pour accélérer la campagne, le pouvoir offre de nouvelles libertés aux vaccinés au moment où il préconise la vigilance face aux variants Delta. La vaccination, le coup d'accélérateur, titre également les Échos. L'objectif est relevé à 50 millions de primo vaccinés fin août, 5 millions de nouveaux rendez-vous en vue pour réduire les délais. Autre sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, Pegasus, l'onde de choc politique et diplomatique en une du Figaro. L'espionnage téléphonique de responsables français dont Emmanuel Macron par des pays amis soulève une vague d'inquiétude et d'indignation et jette un froid sur les relations internationales. Espionnage, non mais allô quoi, pour paraphraser une célèbre star de la télé-réalité. Libération revient également sur cette affaire Pegasus. Les révélations sur le ciblage d'Emmanuel Macron à l'aide du logiciel israélien posent la question de la sécurité des portables des présidents qui ont souvent fait preuve de légèreté en la matière. Ouest France s'interroge sur le dérèglement climatique aux effets toujours plus tangibles de la Sibérie à l'Allemagne, en passant par la Chine et les États-Unis. Une quarantaine de pays sont actuellement frappés par des crues, des incendies et des vagues de chaleur d'une ampleur inédite. Et puis, les vacances avec la Croix. La Croix qui décrypte l'art d'être grand-parent, parce que dimanche sera célébrée la Journée mondiale des grands-parents, instituée par le pape François.